Donc, ce soir, je propose maintenant d'ouvrir la parole et on va écouter ce que le Seigneur va dire. Et donc, je vais demander, peut-être on peut faire avec une interaction. Donc, est-ce que je peux demander à Julio? Julio, est-ce que tu voudrais prier pour le message, s'il te plaît?
Seigneur Dieu, Père du ciel, merci, merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour, pour ta miséricorde dont nous avons tellement besoin. Merci pour ce temps que nous passons ensemble en ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, je te prie de bénir tout ce temps de prière, d'écouter nos prières, Seigneur, de les exaucer, Seigneur. Je te prie de bénir le message aussi, de bénir le pasteur. Et je te remercie, Seigneur, pour prendre soin de nous et pour nous protéger. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Merci. Et peut-être je peux demander une aide avec la lecture du passage que je vais aborder ce soir. Donc, est-ce que Robert est là? OK. Robert, est-ce que tu es d'accord de lire un passage? Courtement, c'est pas très long.
Avec plaisir.
Très bien, merci. Donc le passage, c'est Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4. Et c'est le passage, les versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Merci.
Donc, Marc 4, versets 35 à 41, ça nous parle de la tempête apaisée. On m'entend? Oui? Le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Lui, il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent.
Merci beaucoup, Robert. OK, donc le passage on a lu et on a regardé ensemble, il est des passages parallèles. Matthieu chapitre 8, et nous avons le passage en verset, commencé en verset 18, et après ça, verset 23 à 27. Et nous avons également le parallèle passage dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Donc, c'est bien d'avoir toi témoin, en fait. On a lu un témoin, ça c'est Marc, mais nous avons deux autres qui donnent certains détails, et peut-être il y a un manque de certains détails, mais nous avons une image beaucoup plus large qu'on lire tous les passages ensemble. Donc, je vais proposer d'aborder certains points sur ce topic, sur cet événement. Et de savoir, il y a une application toujours pour nous dans nos vies. Et la première chose, on peut dire que on suit Jésus. Il dit, suis-moi, suis-moi. Et donc, l'idée était, en fait, Jésus a dit, suis-moi, on va passer. Ça, c'est Luc chapitre 8, verset 22. Il le dit, passons de l'autre côté du lac, verset 35 de Marc 4 aussi. On va le faire, on va passer par le bateau. Il faut savoir un peu ce qui est passé pendant cette journée. Déjà, c'est la journée est presque passée, c'est le soir. On est dans un, c'est pas nous, mais c'est eux, ils sont à côté du lac, lac de Galilée, c'est un grand lac. Ils ont passé, c'est les pêcheurs, certains des disciples ont vécu une vie entière là-bas. Donc pour eux, ils ont une expérience de faire le poisson, de chercher, de pêcher sur le lac pour des années, des années, des années. Donc, la première chose on peut dire, après une longue journée, Jésus a dit, on va aller, on va passer à côté. Donc, est-ce que ça c'est normal pour nous? On ne peut pas imaginer qu'est-ce que Jésus va faire. Si on suit Jésus, il veut des choses imprévisibles. On ne peut pas imaginer qu'on va faire. Il va dire, OK, on prend ce bateau. Deux fois, ils ont fait un bateau. La première fois, c'est ça. La deuxième fois, c'était Jésus en train de monter et prier seul. Et ils ont dit aux disciples, OK, vous pouvez passer traverser du lac et moi, je vais être avec vous après. Et ça, c'est le fameux événement quand il a marché sous l'eau. Mais ici, il était dans le bateau avec eux. On ne sait pas qu'est-ce que va passer. C'est pas normal, peut-être, de passer une soirée de traverser du lac. C'est la nuit. C'était pas comme nous avons avec les technologies et les lumières. C'était pas illuminé. C'était vraiment dans le. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans les obscurités, dans les ténèbres, de traverser un lac. Donc, pas comme aujourd'hui, avec tous les orages, avec toutes les possibilités du temps, imprévisibles, ils acceptent d'entrer dans un bateau. C'était une longue journée pour eux. Quand on dit oui à le Seigneur Jésus-Christ, on ne sait pas quoi il va demander à nous. Il va simplement dire, suis-moi. Suis-moi Pierre, suis-moi Simon Pierre, suis-moi Jean. On ne peut pas dire, Seigneur, on va suivre si on peut manger maintenant et après on peut dormir et demain on va passer du lac de l'autre côté. Non, on ne peut pas dicter, on ne peut pas dire ce qu'on veut en fait. C'est une vie de marcher avec lui. S'il demande à nous de sortir, de faire quelque chose, et peut-être il va demander dans cette époque des choses qu'on ne peut pas demander. Il va peut-être à nous d'aller dans un autre pays. Et on peut dire, ce n'est pas normal. J'ai ma vie, j'ai mes planètes. Il va dire, écoute, jette le planète, suis-moi. Peut-être on aime d'être organisé dans nos vies et ce n'est pas de parler contre ça, d'avoir une discipline dans une vie et une organisation. Mais on ne peut pas mettre ça haut de notre position avec Dieu. Lui, il dit, suis-moi. Et quelque chose qui, c'est libérateur quand on peut accepter de faire ça. Parce que c'est une fraîcheur de sortir et de dire, OK, on va faire ça, on va faire ça. Qu'est-ce qui va passer? On ne sait pas. Les quelques ans ici en Suisse, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris le français. Il y a des choses qui passent. On est parti, on fait l'évangélisation, on fait une question-réponse. J'ai dit, mais j'étais en train de prendre ma thé, de boire, et tout le monde est en train de partir. Je pense, c'est bousculant. C'est quelque chose qui bouscule la vie. Mais c'est libérateur parce qu'on n'est pas statique. C'est une aventure. C'est une aventure. C'est quelque chose que les disciples n'ont jamais oublié d'être sur un bateau avec un orage. Il va dire, OK, suis-moi, on y va. Mais la bonne chose, c'est avec Jésus. C'est pas juste de faire des choses avec un risque. C'est vraiment Jésus est avec nous dans le bateau. Donc s'il est dans le bateau, c'est bien parce qu'on va être protégé par lui. C'est pas moi seul en train de faire des choses. Et pas lui dit, ok, moi je reste ici, c'est vous qui va partir. Non, il est toujours avec nous. Donc il a un plan, il a une direction, il a un but. Si on suit Jésus, il va prendre soin de nous. On va dormir, on va manger, on ne sait pas quoi, qui, où, mais on est certain de choses. Le Seigneur va prendre soin de nos besoins. Notre vie quotidienne va être gérée par lui. Il ne peut pas promettre qu'on va avoir tout ce qu'on veut, mais il peut promettre qu'il va combler nos besoins, les choses qui sont importantes pour nos vies. La deuxième chose, ça c'est quelque chose d'intéressant. Luc chapitre 8, verset 23. Jésus commence à dormir. Il s'endormit. Ça c'est super. C'est bien de voir les choses comme ça parce qu'on voit que notre Jésus est humain. Il n'est pas juste Dieu qui flotte comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'est pas un super-héros, ce n'est pas de montrer comme il est détaché de la vie quotidienne de nous. Il est un homme pour l'éternité comme nous. Il est aussi Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Mais dans cette humanité, il a besoin de dormir. Jean chapitre 4, à côté de le puits, Il a reposé parce que c'est midi, il a une fatigue, il a besoin de boire, il a soif, il a demandé, j'ai soif, il a demandé à la femme, est-ce que tu peux donner un peu d'eau? Parce qu'il a soif, c'est pas juste, je commence une conversation, probablement il a un besoin. Ici, il a besoin de dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé probablement presque toute la journée en train de guérir les gens, probablement en train d'enseigner les disciples, en train de gérer les situations, planifier pour les choses qu'il va faire. Une journée de faire ça. Et après ça, après il a fini avec cet épisode, on va traiter ce soir, il arrive de l'autre côté du lac, il est confronté par un homme avec 1000 démons, légions. Donc cet homme possédé. Et il va avoir une occasion de chasser les démons et parler avec cet homme. Donc tout de suite, pas de repos en réalité. On peut dire que c'est ce moment de lui pour dormir. On est le même dans le sens qu'on ne peut pas être super spirituel et penser qu'on va être comme ça tout le temps. On ne peut pas. On a besoin de manger. On a besoin de dormir. Une fois, j'ai vu Pasteur Charles, il arrivait de États-Unis, elle arrive en Angleterre. Et avant ça, j'ai vu souvent les vidéos de lui en train de prêcher. J'ai vu sa vie, il était un homme un peu coté parce qu'il est sorti, il n'a pas dormi très bien. Et lui, il a cherché pour un café. Et voilà, c'est de dire qu'on est des êtres humains. On est normal. Et Jésus aussi, il a besoin de dormir. Mais c'était bien de voir la réalité de sa vie, d'expérimenter, d'avoir la poussière, d'avoir besoin de laver peut-être, d'avoir des échanges avec les gens, de transpirer, de manger, de besoin de reposer. C'est des choses de la vie et on voit un Jésus qui n'est pas détaché de nous parce qu'il a expérimenté cette vie. Il a expérimenté les déceptions de notre vie. Il a expérimenté la fatigue. Il a expérimenté les échanges avec les gens. Il a une vie changée. Et on peut dire la même chose. Est-ce que notre Dieu ce soir n'est pas intéressé de voir notre vie? Est-ce qu'il peut identifier avec les choses en vie à ce moment? Est-ce qu'il comprend que quelqu'un a passé toute la journée en train de bosser et organiser des choses dans sa vie, peut-être d'avoir des problèmes avec les autres, de gérer, d'avoir quelque chose, un rendez-vous avec quelqu'un, de planifier, tout ça, il est avec eux. Et si Dieu a vécu ça, si Jésus-Christ a vécu ça, il n'est pas un Dieu loin de nous. Il est un Dieu qui identifie avec nous et il est un Dieu qui va nous aider avec les réalités de notre vie, les choses quotidiennes. Parce qu'il a fait la même chose 33 ans. Une sagesse. Waouh! C'est quelque chose juste aussi, c'est quelque chose peut-être pour certains de nous. On pense qu'il faut passer les nuits blanches. Je pense que ça, c'est l'expression. Des fois, les gens disent, mais j'ai passé toute la nuit de prier. Psaume 127 parle de le fait que si le Seigneur n'est pas avec nous, c'est la vaine, c'est la vanité d'essayer de faire quelque chose pour le fait d'essayer de faire ça. Donc, si on pense, je vais jeûner, mais le Seigneur n'a pas demandé que je jeûne, pourquoi que je fais ça? Je ne vais pas impressionner le Seigneur. C'est d'avoir, si on fait le jeûne avec lui, c'est d'avoir une proximité avec lui, de mettre à côté les autres choses et consacrer un moment avec lui. Si c'est une nuit de prière comme le Seigneur, on n'est pas là d'imiter sa vie, on est là de suivre Jésus dans notre réalité. Donc, pas besoin de faire des choses en vain, de passer toute la nuit. S'il dit « dors, dors », on peut dormir. Et c'est bien de faire ça. Il donne une qualité de sommeil qui est importante pour nous parce que nous avons un corps physique. On va passer 70 ans, 80 ans, je ne sais pas combien de ans sur la terre. Et ce corps doit nous apporter avec le Saint-Esprit en nous. Donc, on doit gérer nos vies avec avec une prudence et avec une sagesse. On n'est pas des super-hommes et des super-femmes. On est juste spirituel. On marche avec lui. Donc, il dort. Troisième chose, on peut dire. Une expérience, mon expérience ou la vie de Dieu. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui compte. Ça veut dire, on n'est pas là de marcher avec notre expérience. Philippe Serragé, quand il a fait cet culte dernièrement, il a dit, c'est le quatrième institut biblique que je suis en train de gérer maintenant. Je m'avise, je sais exactement ce qu'il faut faire. Chaque jour, je sais les tâches qui sont présentées devant moi. J'ai l'expérience, mais l'expérience remplace la vie par la vie de Dieu. Et c'est le même ici. C'est des hommes, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, pêcheurs pour des années, des années, des années. Ils connaissent le lac comme ses mains, en fait. Il comprend les saisons, le temps il faut faire, le temps il faut pas faire, le météo tous. Ils sont maintenant sur un lac et une vague, bouffe, comme ça, qui arrive. C'est notre vie et pas de vivre par notre expérience. Avec le temps, on va grandir dans notre connaissance de la Bible. On peut peut-être citer des versets par cœur. C'est bien. Peut-être certains de nous avons fait l'institut biblique. Certains pas. C'est une question qu'avec le temps, on va grandir dans notre expérience avec le Seigneur. David a grandi dans son expérience avec le Seigneur. Mais il ne peut pas utiliser cette expérience aujourd'hui pour remplacer la vie de Dieu. Ça veut dire qu'il doit vivre par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il doit expérimenter et manger, il doit écouter, il doit avoir une verticale avec Dieu et nous aussi. Si ce n'est pas ça, on va juste marcher dans la vanité de nos vies, on va marcher dans l'expérience. L'expérience n'est pas la vie. C'est tout ce que nous avons vécu, oui. C'est nous aide. Mais le Saint-Esprit, on cherche d'être rempli par le Saint-Esprit et d'être vivifié par le Saint-Esprit. On ne vient pas avec notre expérience. C'est sec. Ce n'est pas la vie. Si on peut citer les versets, si on peut faire des choses par habitude, Ça, on peut faire, mais on a besoin ce soir et on a besoin dans nos vies de prendre les décisions par la sagesse de Dieu, pas par notre expérience. Combien de, je ne sais pas combien de chrétiens font ça, par expérience. Non, non, on doit être dépendant de notre Dieu à chaque moment. C'est une marche par chaque moment. C'est une révélation par chaque moment. C'est pas, je peux prêcher un message par cœur, donc je vais boire la voix. Non, on fait pas ça. On a besoin d'être touché par le Seigneur pour faire ça. Donc, par l'expérience. Je ne sais pas, 3 ans maintenant, 4 ans que je suis pasteur de cette église. J'ai besoin de Dieu parce que qu'est-ce qui va passer? La réalité de notre vie est on est en train d'être poussé par le Seigneur, de grandir. On va grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est le dernier verset, ou presque le dernier verset de 2 Pierre, chapitre 3. Donc, ça veut dire de grandir et d'être poussé comme un enfant qui va expérimenter la douleur, de grandir. C'est la douleur de jeunesse, je crois, quand les os commencent à grandir et il y a certaines douleurs. Le Seigneur va nous tirer afin qu'on ne va pas utiliser notre expérience, mais on va tourner vers lui et dire, au secours, je suis dans une situation inconnue. Je ne peux pas tenir sur mon expérience. Je vais rester sur mon Dieu. Donc, pour les pêcheurs, pour Pierre, André, Jacques et Jean, ils ne peuvent pas être dépendants de son expérience. Ils sont dans une situation et rien qu'ils peuvent faire va aider. C'est finalement maintenant seulement placer la confiance en Dieu. Maintenant, nous avons cet orage. L'orage arrive, ouf, comme ça. L'impression dans les Écritures, c'était quelque chose aussitôt, c'est quelque chose tout de suite. Ce n'était pas quelque chose, on peut regarder, ah, on va voir ça en 3 heures, on va avoir un orage. Non, c'est bouf, tout de suite. Je regardais un peu et sur le lac de Galilée, il y a des orages comme ça souvent quand il y a des... échange entre l'air chaud et l'air froid. L'air froid qui descend du montagne et l'air chaud qui se lève du lac, en fait. Et les orages et les conséquences de cet changement et croisement, on peut dire. Et donc, maintenant, il y a un orage et ça va changer tous. On est dans une vie. Et on peut planifier nos vies et on peut dire, demain, je vais faire ça, ça et ça. Et je connais les réunions que j'ai avec mes collègues de travail. Je dois faire ça dans la ville, je dois aller là-bas, je dois lire quelque chose, je dois payer les factures. Je peux planifier, mais on ne sait pas quand le Seigneur va descendre avec un orage et bouf, tout de suite quelque chose comme ça qui va pousser toute la bonne organisation de ma vie. Et le Seigneur, est-ce que le Seigneur était au courant avec cet orage? Oui. Il est Dieu. Il est en contrôle. Il est en train de dormir, mais en même temps, il est sur le trône. Donc, ce n'était pas quelque chose, une surprise pour lui. Des orages dans nos vies. Faites tout le planning que vous voulez, mais le monde est dans une situation... Depuis le mars, février, janvier 2020, que toutes les technologies, tous les avancements, toute la globalisation de ce monde est comme ça, bouleversé par un contagion, un virus qu'on ne peut pas regarder, on ne peut pas voir, microscopique. Combien de personnes mortes, combien d'infections? Combien de gens maintenant, la vie a changé, on a des masques, on a des désinfectants. Toute la société a changé par ça. C'est un orage. C'est venu comme ça. Et maintenant, on est en train de gérer les conséquences. Bien sûr, on est en train de faire confiance sur le Seigneur. Mais des orages dans nos vies qui arrivent, et rien pour nous préparer pour ces orages, sauf pour notre confiance dans le Seigneur. Si on est confiance en lui, et on est spirituellement prêt pour les choses qui vont passer. Est-ce qu'on va être dérangé, peut-être perturbé? Oui, mais on est quelqu'un dont on peut faire confiance. Donc, des orages de la vie, et la seule façon de traiter ça est de continuer de marcher pas à pas avec le Seigneur, moment par moment, jour par jour, et de dire, écoute, on va marcher avec toi. Enoch, 300 ans de marcher avec le Seigneur, et on l'avait. Donc, Enoch a accepté de marcher avec le Seigneur, et le Seigneur était content avec ça. Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. Donc voilà, de savoir ça. Le prochain point, notre Dieu est toujours en contrôle. Et je peux dire quelque chose de plus. Il n'est pas en train de gérer une situation. Il est en contrôle totalement. Job chapitre 38, verset 10 et verset 11 parle des limites que Dieu a placées. Il a placé pour les vagues de la mer et l'eau de ne pas passer un point. Ça veut dire qu'il y a des démarcations, des limites fixées par le Seigneur. Verset 10, je suis en train de regarder. Quand je lui imposais ma loi, mes limites, et que je lui mis des barrières et des portes. Ça, c'est verset 10 de Job 38. Et verset 11, c'est super ici. Quand je dis, c'est le Seigneur en train de parler à Job, tu viendras jusqu'à ici et tu n'iras pas au-delà. Ils mettent les limites. Dieu a mis des limites dans nos vies. Il a mis les limites et c'est pour notre bien. Et ça veut dire, ici, avec cette vague, avec cet orage, avec le vent, il est des limites. Quand nous avons des tentations et des épreuves, Dieu laisse les choses arriver, mais il est des limites. Et il va arriver jusqu'à là. Et on veut dire, qu'est-ce qui va passer? Est-ce que je vais être écrasé? Le Seigneur veut dire non. C'est juste arrivé là. Est-ce que le diable a utilisé cet orage? Peut-être. Mais le Seigneur est au-delà et tout puissant du diable. Et lui, il laisse juste un petit espace pour le diable. Il a dit, je suis en contrôle, je ne vais pas laisser plus. Donc, c'est rien plus que la limite placée par le Seigneur. Il est en contrôle. La prochaine chose, on peut dire, la réaction des disciples. Donc, c'est un danger pour eux. C'est clair que l'eau entre dans le bac, dans le bateau, et commence à rompre le bateau, et parce qu'il est des hommes expérimentés, des pêcheurs, c'est pas les petits-enfants, c'est des hommes. Ces hommes qui sont habitués d'avoir des problèmes. Donc, quand ils commencent à crier, c'était parce qu'ils sont dans une situation. Il pense qu'il n'a aucun espoir si le Seigneur n'intervenait pas. Et donc, il crie, il se réveille, le Seigneur, et dit, écoute, Seigneur Jésus, voilà, regarde. Et le Seigneur, il peut dire, mais vous n'avez pas la foi. Parce que notre Dieu peut faire des choses qui sont impossibles. Il est le Dieu de l'heure. Il est suisse. Non, je blague, il n'est pas suisse. Il a un monde, mais il a tout le temps. Non, je rigole. Il est à l'heure chaque fois. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais tôt. Il est à l'heure, notre Seigneur. Ça veut dire, si les disciples n'ont peut-être pas réveillé le Seigneur, est-ce qu'il va mourir? Non. Parce que le Seigneur a un plan, n'est-ce pas, pour aller jusqu'à la croix. Donc, ça veut dire pour nous que tout était prévu et eux, ils ont sauté tout de suite. Il faut attendre. Peut-être l'apparence de quelque chose n'est pas la réalité. Peut-être la chose qu'on peut voir, ce n'est pas la réalité. Peut-être c'est de ne pas réagir quand on voit quelque chose et dire, écoute, peut-être c'était juste une seconde après que le Seigneur a prévu de se réveiller et de dire quelque chose. Mais on essaie de faire plus tôt. On peut arrêter juste de savoir quand c'est le moment où le Seigneur va intervenir. Et quand il va intervenir comme ça. C'est pas, il ne peut pas prendre le temps de surveiller et de dire, OK, qu'est-ce que se passe? Est-ce que vous pouvez expliquer à moi qu'est-ce qui est en train de passer? Non. Il est à l'attaque tout de suite. Notre Seigneur connaît tous. Il est en contrôle. Le dernier point. Trois mots et tout est en silence. Les vagues, l'orage, trois mots. Lazare sort et Lazare a sauté du tombeau vivant. Quand Abraham a demandé, le Seigneur peut donner un enfant comme ça. Quand Dieu parle dans nos vies, ses paroles sont puissantes. Psaume 29. Cette fois dans cette psaume, l'expression « la voix de l'Éternel » retenir sur l'eau, les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel est puissante. Il a dit lumière et lumière. Notre Seigneur n'a pas besoin de dire plus. Après, quand il a chassé les démons, sort. Comme ça. Pas besoin de crier, pas besoin de passer une heure d'invoquer l'Éternel. Non. Il a autorité. Il a une telle autorité qu'il a dit, OK. Il a parlé et c'est passé. Ça, c'est notre Dieu. Dans les vagues, dans les vents, dans les orages de la vie, on ne peut pas imaginer. Il n'est pas une solution humaine. Mais quand le Seigneur parle, il n'a pas besoin de dire plus, mais quelque chose court et puissant avec autorité et ça se fait. Et tout va finir dans un instant. Est-ce qu'on attend pour le Seigneur de dire quelque chose dans nos vies? Est-ce qu'on attend pour cette voix? Parce que quand il parle, ça va être la délivrance. C'est le même Dieu qui dort dans le bateau, sur le bateau, et en même temps se lève et parle. C'est le même Dieu qui, une autre fois, va marcher sur l'eau. C'est le même Dieu qui va demander, Pierre, saut du bateau, marche. Puissance avec sa parole. Il y a un proverbe, non, Ecclésiastes, est-ce que c'est ecclésiastique ou proverbe? La parole de le roi est puissante. Quand il est la parole du roi, c'est ça. Ça se fait. Est-ce que c'est Ecclésiastes chapitre 7? La parole de la voix, la voix de la et la parole du roi est puissant. Quand on trouve le roi, on trouve sa parole. Quand on trouve sa parole, c'est avec autorité. Notre Seigneur est lui qui parle. Dans nos situations, on peut attendre pour des années. On peut être dans un orage à ce moment. Mais quand il va parler, sa présence va être manifestée. Peut-être ce soir, on est en train de vivre quelque chose. La présence de Dieu est là, mais il semble pour nous que le Seigneur dort. Merci. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Parce que la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Merci pour ça. Juste pour dire, on pense qu'il dort en ce moment. Mais il ne dort pas. En réalité, le Seigneur est engagé. Il est peut-être silencieux. Mais sa présence est toujours là avec nous. Il ne va jamais nous abandonner. Et quand il va intervenir dans notre vie, on va voir, ça va être un témoignage comme jamais. Parce que personne ne peut oublier ce qui est passé sur cette lac. On est en train de parler de ça ce soir. C'est un témoignage. Personne ne peut dire, oui, mais c'est la technologie ou quelque chose d'autre. Non, c'était la parole de Jésus-Christ. Ça, c'est sa fille. Sa voix parle, il est en puissance. Entendre la voix de notre Seigneur, c'est une voix de délivrance. C'est une voix à l'heure. Et c'est intervenir dans notre vie. Wow. Et nous avons besoin de ça. Que Dieu vous bénisse. Wow. On va prier. Seigneur, nous sommes entourés par les défis de nos vies. Nous avons des relations, membres de famille qui ne sont pas sauvés. Et ils ont besoin d'être sauvés. Sauve-les, s'il te plaît. Tu connais les noms. Membres de nos églises, notre église avec les membres de famille, pas sauvés. On pense à ceux qui sont malades ce moment avec le COVID. Tu peux toucher tout de suite comme ça. On pense à ceux qui sont en train de noyer avec des situations, des factures peut-être, des soucis de l'argent, des papiers sans cesse de remplir avec le gouvernement peut-être, des complications de la vie. Et Seigneur, dans tout ça, tu es là, et ta parole est là, ta voix est là, et c'est puissant. Merci Seigneur. On a besoin d'arrêter et sachez que tu es Dieu. Et on a besoin de rester et pas de paniquer dans le bateau. Parce que tu es là et tu vas parler, tu vas intervenir. Et on va passer de l'autre côté du lac. Il y a des choses à faire là-bas avec toi. Des défis, donc ce n'était pas maintenant. Ce n'est pas la fin. C'est juste un processus. Merci Seigneur. Merci parce que tu vas nous amener au bon port. Gloire à toi. Amen.